6h01, lundi 6 avril. Bonne journée et bienvenue au 98.5 FM. Donc, une très belle journée, un beau début de semaine, pour tout dire. C'est du soleil aujourd'hui avec un maximum prévu de 11. Demain, c'est du soleil 10. Pour ce qui est de mercredi, ça se couvre 6 degrés. Il y a de la pluie qui devrait commencer en fin de soirée, durant la nuit. Et même jeudi, on prévoit de la pluie une bonne partie de la journée, 5 degrés. Et vendredi, pour l'instant, on prévoit peut-être de la pluie, peut-être même quelques flocons de neige, selon l'endroit où vous habitez. Alors que le week-end de Pâques, samedi, dimanche, jusqu'à maintenant, on prévoit du temps plutôt ensoleillé, des températures entre 8 et 11 degrés. D'abord, commençons par le portrait global, avec les chiffres, les trois chiffres les plus importants. Ce qu'on constate, c'est que la courbe est évidemment toujours vers le haut et que, pour l'instant, ça semble relativement sous contrôle en termes de progression. 94 décès au Québec, 525 personnes à l'hôpital, 154 aux soins intensifs. C'est, je pense, les trois données les plus fondamentales parce que ça vient illustrer ce qu'on demande actuellement au réseau de la santé. Ce qu'on a annoncé hier comme portrait et la décision de prolonger la pause jusqu'au début mai, je pense que tous, on va se dire la vérité, puis on est très conscients là, que les prochaines semaines vont être déterminantes. Et pour se donner toutes les chances, on a décidé, et c'est pas facile là, comme je dirais action, là, de dire à l'ensemble des Québécois, vous restez chez vous, on ferme les entreprises, sauf les entreprises et les services essentiels, puis on y reviendra sur la définition, pour éviter que ça se propage. Et d'après les chiffres de Google, d'ailleurs, c'est intéressant de savoir que Google nous suit comme ça à la trace, savoir si on est à la maison, savoir si on est dans un parc. Je comprends que ce n'est pas des infos personnelles, là. C'est comme un portrait global, mais bon, vous voyez qu'on est suivi. Alors, tout ça pour vous dire que, de façon générale, les Québécois, quand même, suivent les consignes, et ce n'est pas le temps de relâcher. Mais il y a toujours, et il y aura malheureusement, des entêtés. Vous avez entendu le cas de cette personne qui ne veut rien savoir. Ce n'est pas le gouvernement qui va lui dire quoi faire. Et je vais vous lire un courriel qu'une policière m'a envoyé et qui montre que ça devient parfois difficile. Parce que j'ai eu d'autres courriels de gens qui me disent « On a eu des contraventions, je ne comprends pas, puis il n'y avait rien d'illégal. » Alors, je suis policier et on se fait rire de nous. Depuis que le premier ministre nous a demandé de sévir, nous avons remarqué une problématique dans le décret. En effet, il est interdit de se rassembler et être moins de 2 mètres. Cependant, il y a quelques exceptions, dont les rassemblements dans des moyens de transport, ce qui est vrai. On se retrouve avec plusieurs individus, surtout des jeunes, qui se rassemblent, dans les autobus de la Société de transport de Montréal, entre autres. Les individus sont extrêmement proches les uns des autres, contreviennent à l'esprit du décret, mais c'est difficile pour nous d'intervenir. En plus, nous convenons que les gens d'une même famille peuvent se déplacer ensemble ou les travailleurs qui font du covoiturage. Cependant, je crois que 5 jeunes de 3 adresses différentes à 2 heures du matin qui se promènent dans le centre-ville pour passer le temps, c'est pas essentiel et que ça pose une menace pour la santé publique. Donc, on aimerait avoir des précisions. La question a été posée à M. Legault, il s'est rapidement tourné vers les policiers en disant « J'ai confiance en votre jugement et vous avez qu'à intervenir de cette façon-là. » Parce que les constats sont quand même costauds, mais ils sont nécessaires. Parce que encore en fin de semaine, il y a des gens qui n'ont rien compris. Puis on a fermé l'île Notre-Dame, puis on contrôle les accès. Pourquoi? Parce que les gens, puis c'est tentant, il fait beau. Puis de dire, je vais aller prendre l'air, puis on rencontre du monde, puis là, mon frère est à Québec, puis il va descendre, puis... Si tout ça est fort désagréable, on en convient, mais c'est malheureusement pas très, très sécuritaire. Puis j'en profite, parce que hier, tout le monde en parle, j'ai parlé des snowbirds qui n'ont pas aimé ça, qui m'ont envoyé quelques courriels, disons, en disant, arrêtez de nous stigmatiser. Je donne l'exemple des snowbirds parce que plusieurs ont posé des gestes de délinquance puis ont posé des gestes qui allaient à l'encontre des consignes. Puis là, je vous donne des exemples de jeunes qui se promènent dans des voitures. Je vous donne des exemples, puis je vais le faire tantôt, d'entreprises que tu te demandes exactement à quoi ce sont des services essentiels. C'est parce que faut comprendre une chose. C'est pas juste le virus, c'est l'impact sur le réseau de la santé. Et actuellement, on fait des choix. À Québec, on ne le dit pas trop fort, parce que ce n'est pas le discours qu'on veut, évidemment, que les gens entendent. Puis ça stresse du monde. Sauf que les médecins et leur équipe qui informent les patients que malheureusement, vous ne serez pas opéré pour un cancer, ben oui, c'est leur réalité. Oui, c'est frustrant. Ce sont des choix déchirants. Puis je vous donne juste un exemple de ça. C'est un courriel que j'ai reçu. Et ce courriel-là là, vient illustrer exactement ce que plein de gens vivent actuellement. Et cette personne-là me dit, j'ai un diagnostic de cancer du sein, qui est tout récent. Et mon médecin m'a dit, écoutez, on a besoin de faire une chirurgie dans votre cas, mais malheureusement, ça ne sera pas possible. Alors, les chirurgies sont arrêtées. J'ai peur, je suis triste. Je l'étais déjà avant de savoir tout ce qui se passe avec le virus. Qui peut m'aider? Je veux garder espoir. Alors, je peux vous dire que depuis vendredi, on a, disons, décidé, parce que Mme McCann n'est pas toujours très claire. Elle parle d'une intervention prioritaire. Tu dis, OK, mais veut dire quoi, ça? Urgent, prioritaire? Dans les faits, c'est qu'on a un comité qui a établi des normes. Et encore là, ça se défend sur le plan de la santé publique. Il ne faut pas que la chirurgie dure plus que 4 heures. Il ne faut pas que le patient soit aux soins intensifs. Il ne peut pas être hospitalisé trop longtemps parce qu'on a besoin des lits, on a besoin du personnel, on a besoin de l'équipement. Et donc, de longues interventions sont décalées. Alors, oui, il va s'en faire d'ici la fin de la semaine, là, des interventions de cancer, mais des cas qui sont, me dit-on, bien souvent semi-urgents. Là. Tout ça est urgent, là. Mais par contre, il y a des gens qui auraient besoin d'une intervention et qui ne l'auront pas. Alors, il faut comme réinventer la médecine, me disent plusieurs médecins. Faut trouver une nouvelle approche. On va essayer d'autres choses. Est-ce que ça va avoir un effet sur le diagnostic, le pronostic de la personne, en fait, plutôt, sur la qualité de vie? Peut-être. Si je ne t'opère pas maintenant, une semaine, c'est pas pire. 2 semaines, embêtant. 3 semaines, ça commence à être plus problématique. Puis je répète, là, je comprends pourquoi on le fait. En même temps, mettez-vous à la place de cette femme-là et d'autres qui viennent d'avoir un diagnostic en disant « on doit vous opérer, mais là, entre-temps, on va vous proposer d'autres traitements parce qu'on ne peut pas vous opérer. » Alors, je dis ça à tous les caves de récalcitrants qui ne veulent rien comprendre. Si vous vous foutez de votre santé, ça ne vous regarde même pas parce que vous allez être hospitalisé, vous allez prendre la place de quelqu'un qui a besoin d'être soigné. Fait que si vous n'êtes pas capable d'être responsable, on va vous le répéter de façon bête, puis en espérant que les constats vont se multiplier, puis que les policiers vont en donner des constats, puis qu'on nous fasse des bilans, des cas, justement. Puis je comprends la difficulté des policiers aussi d'y aller comme ça sur le terrain. Mais chaque jour, dans les hôpitaux du Québec, on fait des choix, on gère du mieux qu'on peut la situation. Face à un personnel aussi qui est exposé. Les gens sont anxieux. Tu t'en vas travailler le matin, puis tu dis, je vais prendre tous les moyens pour me protéger. Mais, si veux, veux pas, ça te reste dans la tête, puis c'est normal. Et c'est pas une crisette de 2-3 jours, là. C'est un long marathon. Et je pense qu'il faut tenir compte de ça. Il faut vraiment se dire la vérité, là. C'est pas en ayant des tableaux sur des projections en disant ben, peut-être que dans 3 semaines, si on n'avait rien fait, ben, on aurait eu tant de morts. Je comprends là, que c'est un exercice intéressant, peut-être sur le plan de la statistique, là. Mais moi, c'est pas ça qui vient me chercher beaucoup. Là. Alors qu'on le dise aux gens que oui, il y a des choix qui se font, puis qu'on arrête peut-être de jouer un petit peu sur les mots, parce que les gens à qui vous voulez pas faire peur, là, ben, ils se font dire la vérité par leur médecin. Et si on demeure dans le domaine de la santé, vaccins et médicaments, là, le président Trump en a remis une couche hier en disant que la chloroquine est convaincu que ça va marcher, puis qu'on a stocké, je pense, c'est des dizaines de millions de comprimés. Je sais que sur le web, il y a une tendance à soutenir ce médicament-là, puis pas juste sur le web, là, il y a des experts qui ont dit qu'il fallait l'administrer. Et on l'administre déjà. Je rappelle que dans un premier temps, pour les gens qui souffrent, exemple, d'arthrite ou d'autres maladies inflammatoires, là, qui avaient ce médicament-là, vous vous êtes fait dire par votre pharmacien, ben, il n'y en aura pas d'autres parce qu'on a réquisitionné les stocks. Je sais que à l'hôpital juif, on l'administrait à des patients qui avaient la COVID-19. La recommandation qui semble être la plus, je dirais, la plus prudente, c'est que tu ne peux pas commencer à prescrire ça massivement. Tu peux, évidemment, le faire en milieu hospitalier. Et beaucoup de médecins disent, ben, on n'a pas de traitement. Fait que pourquoi pas l'essayer, sauf qu'il y a eu des cas d'effets secondaires où ça a été la catastrophe. Mais en même temps, il y a des gens qui meurent. J'en parlais avec le docteur Weiss ce matin. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a quand même certaines molécules qui sont traitées. Ben, beaucoup de gens me parlent des recherches de M. Chrétien à l'Institut de recherche de Montréal. Il n'y a pas de nouvelles. On sait que ça va prendre un certain temps. Pour ce qui est des médicaments, ça pourrait aller plus vite. Les traitements, là. Pour ce qui est des vaccins, évidemment, il y en a deux, semble-t-il, qui sont assez prometteurs. Les essais, parce qu'il y a différentes phases, là, devraient commencer sérieusement au mois de septembre, ce qui fait que, en pratique, on n'aura pas de vaccin avant probablement un an. Mais on pourrait avoir différents traitements. Et je sais aussi qu'au niveau des tests, il y a différents scénarios qui sont envisagés pour trouver certains modèles de tests qui pourraient se faire assez rapidement et donc dire c'est positif, c'est négatif. Alors tout ça, je vais regarder ça tantôt avec le docteur Carl Weiss. Donc, sur le plan de la santé, je pense que c'est ça qui est important de noter. Pour ce qui est des équipements, ça va un peu mieux, mais en même temps, on demeure fragile. Et je regardais ce matin, on parlait de la guerre des masques, là, puis des gants, puis des vêtements de protection. La France vient de se faire prendre la main dans le sac. Ils ont intercepté 4 millions de masques qui étaient à destination de la Suède. Et ils se sont appropriés les quantités. Or, ça a été dénoncé. Et là, ils sont, pour la première fois, obligés de reconnaître qu'ils s'étaient servis d'une espèce de pouvoir spécial pour ramasser les masques. Alors, il n'y a pas que les Américains qui veulent empêcher le Canada de recevoir des approvisionnements. Il y a la France qui le fait aussi de ce côté-là. Bon, on va parler d'argent maintenant. D'abord, c'est aujourd'hui que le programme d'urgence fédérale phase 1 s'ouvre. Et ça veut dire que les gens qui sont nés en janvier, février et mars, vous pouvez aller vous inscrire aujourd'hui. Alors, c'est le fameux 2 000 $ d'urgence qui sera imposable, mais pas sur le coup. Et donc, on va pouvoir, comme ça, donner un premier coup de pouce pour aider les gens qui en ont besoin. Il y a tous les autres programmes qui existent. On sait qu'on a annoncé des augmentations de rémunération pour les moins bien payés et pour s'assurer, entre autres, que les gens ne soient pas tentés de quitter leur travail, même si je comprends que pour avoir... l'aide, tu ne peux pas décider de quitter ton emploi. Si tu as une perte d'emploi, ben là, oui. Si tu es confiné, évidemment que oui. Alors, donc, on nous promet un dépôt rapide. Et je sais que les gens ont besoin d'argent maintenant, là, dans beaucoup de cas. On me racontait en fin de semaine que la fameuse co-assurance pour l'achat de médicaments, ben, y a des gens qui n'ont pas l'argent pour payer cette co-assurance-là et qui renoncent pour les prochains jours à leur médicaments. Alors, vous imaginez un peu l'effet là, que ça peut avoir. Et donc, assez rapidement, vous aurez votre argent. Il y a aussi les banques, c'est dans le Globe and Mail ce matin, qui pourraient offrir des prêts sans intérêt aux petites entreprises. Mais ce n'est pas encore tout à fait attaché. On ne peut pas dire jusqu'à maintenant que les institutions financières se sont montrées très accommodantes. Oui, on peut repousser des paiements, mais on comprend que tout ce que ça fait, c'est que ça repousse puis que l'intérêt court. Oui, on nous annonce une baisse des taux d'intérêt sur les cartes de crédit, mais disons que je comprends là, que c'est pas là pour faire la charité, mais en termes de souplesse et d'accommodement, peut-être pas des modèles, les institutions financières. Et puis, hier, on a annoncé le fameux panier bleu, un portail web pour l'achat local. Premièrement, c'est un portail qui n'est pas fait pour faire des transactions. Okay? La première mouture, là, c'est qu'on te dit voici les listes, la liste des entreprises québécoises, achetons local. On va reparler tantôt avec Pierre-Yves aussi. Là. Première question, qu'est-ce qui est un produit local? Qu'est-ce qui est une entreprise locale? C'est une boutique qui vend des produits d'importation. Comment on définit ça, premièrement? Deuxièmement, là, je m'adresse à vous, là. Portefeuille serré de ce temps-là, budget limité. Et pour avoir abordé souvent le sujet, le nationalisme dans l'achat, il y a des gens qui peuvent se le permettre parce qu'ils ont les moyens. Il y a des gens qui le font parce que strictement, ils n'ont peut-être pas les moyens extraordinaires, mais ils ont beaucoup de convictions. Puis je ne mettrai pas un pourcentage, mais il y a bien des gens qui disent d'abord le prix. Combien ça coûte? Puis si c'est fait ailleurs parce que du dumping, parce que la main-d'œuvre ne coûte rien, bien, ça sera un produit ailleurs. Et là, le premier ministre Legault a expliqué hier l'avantage d'investir puis de faire des achats locaux. Et tous les petits commerces fermés actuellement ont besoin de l'aide des consommateurs. Si vous pouvez encourager un restaurateur qui vous offre des repas préparés, si vous avez les moyens, là, il faut le faire. Il y a des commerces qui trouvent, qui cherchent à innover pour être capables de survivre dans ça. Alors oui, on est, je pense, d'entrée de jeu, puis la crise nous rend peut-être un peu plus solidaires. C'est-à-dire, bien là, il faut essayer de soutenir par nos achats des commerçants locaux pour l'après-crise. Mais j'ai hâte de voir, moi, jusqu'à quel point le prix ne sera pas le facteur le plus, disons, déterminant dans les achats que les gens vont effectuer. Et en parlant des entreprises, encore là, il y a bien des auditeurs qui travaillent, qui me disent comment ça se fait que ma compagnie est ouverte. Puis je vais donner un exemple ce matin. Pratt & Whitney, je ne sais pas combien je reçois de courriels, différentes usines. Là. C'est ouvert, c'est correct. Là. Mais vos employés, je vous le dis, aux dirigeants de Pratt & Whitney, ne sont pas à l'aise en milieu de travail concernant le respect des mesures, l'écart de 2 mètres et autres. Pourquoi c'est un service essentiel? Semble-t-il que ça a été admis, puis mettons que c'est correct, là. Mais tu as moyen de respecter, parce que s'il y a des rassemblements, en fait, si les rassemblements sont interdits, il y a des gens qui sont sur les mêmes outils, 3 quarts de travail, puis est-ce qu'on a pris tous les moyens? En tout cas, vos employés vous disent que non. J'ai encore beaucoup de dépanneurs couche-tard où des employés m'écrivent pour me dire qu'ils n'ont pas le fameux plexiglas, la mesure de protection. Encore là, je ne sais pas si c'est un problème de communication avec la maison mère puis chacune des succursales. Mais faites de quoi, là? Parce que vos employés qui ont encore travaillé hier n'ont pas beaucoup de nouvelles de l'employeur local ou national. Fait que je ne sais pas c'est quoi la position de couche-tard qui n'est pas une entreprise qui fait pitié. Là. Ils pourraient au moins peut-être être un petit peu plus proactifs, même s'ils sont en retard dans certains endroits. Il y a d'autres dépanneurs, disons, qui sont quand même mieux équipés. Et l'autre frustration, puis je vais vous donner un exemple. Là. Petit commerce spécialisé dans la peinture. Obligation de fermer. Grande surface qui vend de la bouffe ou qui vend des gugus, qui a le droit d'ouvrir, puis qui vend aussi de la peinture. Puis là, c'est le printemps, puis les gens sont chez eux, puis il y en a qui en profitent pour peut-être rénover, rafraîchir. Fait que tes clients que tu ne peux pas servir parce que tu es obligé de fermer, puis fermer jusqu'au mois de mai, bien, ils s'en vont directement vers les grandes bannières. Fait que d'un côté, Québec me dit « achète localement », puis de l'autre côté, tu m'envoies vers des grandes entreprises. Je comprends que ce sont des magasins au Québec, là. Mais Walmart, là, on s'entend-tu que ça n'a pas été une conception de la Beauce, là. Fait que ce que je veux dire par... Tu sais, puis mettez-vous à la place de ces petits commerçants qui se font charger le loyer par leurs propriétaires, d'autres qui se versent des dividendes qui ne sont peut-être pas éligibles au programme, tout ça mis ensemble, là. Bien, c'est sûr qu'il y a, disons, un certain élément de frustration. Et aussi, il y a cette décision de l'hôpital juif qui fait beaucoup réagir pour interdire, encore là pour des raisons de santé publique, au conjoint d'être présent lors de l'accouchement. Et là, j'ai deux, trois personnes qui prévoient accoucher. Leur femme prévoit accoucher, par exemple, à l'hôpital juif, puis qui font dire, ben, vous ne serez pas là au moment de l'accouchement. Puis au moment de l'échographie, tu ne peux pas le savoir non plus. Ça faut que ça soit à distance. Puis il y en a d'autres qui ne le font pas. Et toujours sur le plan financier, on va revenir justement avec la Chambre des notaires, parce que là, il y a une réalité. Là. La construction, là, pas avant le 4 mai, votre maison est en train, ou votre condo, d'être construit. Ça ne sera pas prêt pour la date de livraison. Votre maison est vendue. L'acheteur déménage. Il arrive quoi? Est-ce que j'ai des recours? Toutes ces questions-là, on va les poser au président de la Chambre des notaires tantôt. Et puis un mot aux États-Unis, où on pense qu'on va entrer dans la période la plus difficile. Il y avait un militaire qui disait « c'est notre Pearl Harbor » en termes d'intensité, en termes d'impact sur notre vie. Alors, c'est sûr qu'en gros, les prochains jours vont être assez déterminants, entre autres dans l'État de New York. La bonne nouvelle, peut-être à travers tout ça, c'est que l'Espagne, l'Italie, les chiffres demeurent élevés là, en termes de décès, mais ça semble vouloir à tout le moins se stabiliser un peu. Et je rappelle en terminant que le premier ministre britannique Boris Johnson est hospitalisé. Il avait été testé positif. Et dans son cas, il semble que la fièvre était persistante. Sa femme, qui est enceinte aussi, là, en passant, avait des symptômes, enceinte de 6 mois. Et on a donc décidé de l'amener à l'hôpital pour, évidemment, pousser un peu plus loin l'enquête sur son cas. Ça nous conduit à 6h23 minutes. Toujours l'autoroute 20 qu'on surveille.